Salut, c'est Kevin Nenke et bienvenue dans Vestiaire.
Bonjour Kevin.
Bonjour Julien.
Alors, comment va le meilleur buteur de la Pro League?
Il va bien, je vais bien, ça se passe bien, nouvelle semaine, content.
Ça fait quoi de récupérer le taureau d'or derrière le maillot?
C'est vrai que ça devient un peu plus sérieux, on va dire. On rentre un peu plus dans une concurrence, parce que voilà, une fois je l'ai, une fois je ne l'ai pas, mais ça fait plaisir, le travail il paye. Et voilà, je suis content.
Un symbole comme ça sur un maillot, le fait de valoriser cette place de meilleur buteur, tu y tiens, ça te tient à cœur, ça?
Honnêtement, pour dire la vérité, au début, ce n'était pas forcément un objectif. L'objectif, c'était de mieux faire que la saison dernière. C'était d'aider l'équipe, d'apporter un plus au cercle, qu'on finisse plus haut que la saison dernière. Mais voilà, j'ai commencé vraiment rapidement, j'ai enchaîné des buts et voilà, tout le monde était content, tout le monde disait mais en fait on a un vrai buteur avec nous. Quand j'ai tout le monde, je parle de mes coéquipiers qui ont commencé à me titiller avec ça, attention, il y a l'autre qui te rattrape, il arrive.
Ouais, ça te charrie quoi.
Voilà, et en fait ils m'ont plus mis dans la tête d'être le premier qu'autre chose, ils me poussent plus mes coéquipiers et naturellement c'est devenu un objectif. J'ai envie de dire de toute l'équipe carrément.
Ouais.
Parce qu'ils sont tout le temps là à me dire « Ah, attention !» Et je le prends au sérieux aussi maintenant. Je me dis « Ok, allons-y. »
De là à t'obséder, par exemple, en allant voir si Koïta, par exemple, a mis un but le week-end avant toi ou après toi?
C'est pas l'objectif. Déjà, j'essaie de me concentrer vraiment sur le match que j'ai, qu'il joue avant ou pas, mais je me concentre sur moi. Mais après... Je veux dire honnêtement, je reçois des messages quand on me dit « Ah, il n'a pas marqué. Ah, il a marqué.
» Ouais, ça devient déjà un jeu.
C'est les supporters du cercle. Même quand je sors dans la rue, quand j'en rencontre, « Ah, c'est bien, t'es le premier maintenant. Ah, faut que tu marques pour le rattraper ou pour le dépasser. » Et c'est un peu ça, le mood dans lequel je suis maintenant.
Un mood agréable, c'est vrai. On dit toujours que les hommes mentent pas les chiffres. J'ai regardé, tu es le troisième meilleur buteur africain sur les 8 plus grands championnats d'Europe. Donc c'est-à-dire que tu es derrière Guirassy, tu es derrière Banza, mais tu es devant un joueur comme Mohamed Salah. C'est anecdotique, mais est-ce que ça signifie aussi que tu en as fait du chemin depuis le début?
Ah, je n'étais pas au courant
Salah
de ça.
Salah a mis un but de moins que toi.
D'accord, un but de moins.
Voilà.
Ok. Après, si je commence à regarder ça, je dois regarder. Mais c'est vrai que c'est bien. Ce que je cherche à faire moi maintenant, c'est par rapport à ce que je faisais précédemment, c'est d'être régulier, d'être consistant et régulier. Et c'est ce que le début. Je pense que c'est ma première saison où je suis assez régulier comme ça. Et sur l'année civile, je pense que j'ai bien fait. Et je pense que c'est le début et il faut que je continue à garder ce truc. J'ai un bon club qui me soutient bien, des bons coéquipiers et ça peut qu'aller.
Ce qui est marrant pour un buteur, c'est que tu as débuté comme milieu de terrain au FC Kougoumou, c'est ça? C'était le club de ton quartier au Togo, non?
Kumungu,
voilà. Et donc, ouais, milieu de terrain et... Tu peux nous raconter le jour où tu es devenu attaquant?
J'ai commencé milieu terrain parce que je suis un attaquant aussi spécial qui aime jouer, qui aime le ballon. Je l'ai encore aujourd'hui, mais moins parce qu'on m'oblige à rester plus dans la zone, dans la red zone, on va dire.
Alors que tu aimes bien participer au jeu.
C'est mon jeu. En fait, mon jeu, c'est décrocher, demander le ballon, protéger le ballon, me retourner. Tu sais, faire des petits trucs, des roulettes, des passements de jambes, ça c'est... Peut-être qu'il y a plein de gens qui ont pas encore vu ce côté de moi, mais c'est ce que j'aime, donner des passes aussi, des bonnes passes,
ouais.
Des passes cachées ou tu vois...
C'est pas qu'un simple joueur de boxe qui attend le centre et qui veut marquer.
Mais ça a changé quand je suis arrivé à Lyon, au Kaskolula, où je suis arrivé en tant que milieu, numéro 8, mais je marquais quasiment à chaque match. Tous les buts et ils ont commencé à se dire mais faut qu'il reste un peu plus devant. Malgré ça, je descendais encore. Et à Nîmes aussi, ils ont commencé à me... Pareil, à me dire que non, je ne peux pas être un 8, je dois être un attaquant.
Ça a été tardif, en fait, cette vie de numéro 8.
Ouais, très, très tardif. Et voilà, en U17 à Nîmes, le coach Bernard Blacard, qui m'a vraiment, il m'a vraiment pris dans son bureau et à me dire, voilà, faut que tu... Cette saison, je veux que tu mettes 15 buts. Est-ce que tu es capable de mettre 15 buts? Et je lui dis oui, ben vas-y, et voilà. Et...
Tu doutais pas à ce moment-là, du coup, de pouvoir mettre ces 15 buts?
Non.
Ça te semblait évident?
Pour moi, c'était... Et je savais que j'allais le faire. Voilà, à partir du moment où il commençait à me titiller comme ça, à me demander des... Voilà, je faisais tout pour marquer les 15 buts. Ça m'obligeait plus à focus sur le but. Et je le faisais. En U19, j'ai marqué 27 buts une saison aussi. Voilà, j'ai toujours marqué. Ça a toujours été naturel, même quand j'aime le jeu. Donc, c'est une chance que j'ai de pouvoir jouer et aussi marquer. Et ici, au cercle, ils m'ont... vraiment beaucoup, beaucoup aidé à me développer tactiquement en tant qu'attaquant.
Tu parlais de Lyon et on reviendra comment tu as atterri là-bas. Mais c'est vrai que cet été, on a entendu des rumeurs comme quoi l'Olympique Lyonnais te désirait. Jusque où ces contacts ont-ils été? C'était du concret?
Exactement. J'ai eu des pistes un peu pendant l'été, des clubs français, dont notamment Lyon, Montpellier et tout. Lyon, ils sont renseignés, bien sûr. Ils sont renseignés auprès de mes agents. Mais parce que j'ai les mêmes agents que Corentin Tolisso, donc c'était assez facile d'avoir le contact. Moi, j'ai pas eu ce contact. Ils ont eu avec eux. Après, ça s'est pas fait parce que voilà, il y avait des exigences du cercle. Et ce que moi aussi je voulais un truc sûr, un club qui me voulait. Voilà, il y avait plein de facteurs. Ça s'est pas fait. Voilà.
Fallait que tout soit parfait pour toutes les parties pour que tu partes et t'as pas mal vécu ce non-transfert au final.
Non, exactement, parce que déjà, il faut savoir que Lyon, je viens de là-bas, c'est là où j'ai tout appris dès mes débuts et j'ai tout le monde là-bas. Même j'ai reçu des messages quand c'est sorti dans la presse et tout. C'est mes amis de Lyon qui m'ont dit non, c'est incroyable si ça se fait. Mais je voulais avoir la tête froide, savoir que j'ai fait une bonne saison la saison dernière quand même.
C'est clair.
Mais je savais que j'étais capable de faire ce que je fais aujourd'hui dans cette saison. Donc je voulais un endroit sain qui pouvait vraiment m'aider à continuer sur comment j'ai terminé la saison dernière. Et fallait que je sente une confiance, je sente quelque chose de plus que j'ai pas eu parmi ces clubs qui étaient là.
C'est vrai que Lyon, ça semble être une récurrence dans ton parcours, parce que c'est là où tu t'es développé aussi en tant qu'adolescent. Pendant 12 ans, tu as vécu au Togo. Comment tu arrives en France? Pourquoi tu décides de quitter ton pays natal?
Lyon, c'est vraiment un endroit où j'ai appris beaucoup. Mais avant d'arriver là, c'est vrai que j'étais au Togo. Au Togo, j'avais une enfance plutôt normale. Pas très normal parce que j'aime beaucoup jouer au ballon et c'était incroyable l'envie que j'avais de tout le temps jouer.
Ça se matérialisait comment? C'est-à-dire dès que tu pouvais, c'était dehors, on jouait au foot?
Mais dès que je pouvais, c'était tout le temps, j'allais voir mes potes, faut qu'on joue, faut qu'on organise un truc. Et il ne fallait pas beaucoup pour jouer, il fallait juste un espace. On prenait deux paires de chaussures ou deux t-shirts, on mettait on comptait les passes, ça faisait un but et l'autre but. Et un petit endroit, ça y est, on jouait.
Sur quelques mètres carrés, en fait.
Quelques mètres carrés, vraiment des petits poteaux, comme on dit. Et c'était comme ça qu'on prenait du plaisir. C'était assez incroyable comment j'aimais jouer tout le temps. Quand j'étais seul, il n'y avait personne, et ben, je jouais avec le mur. Je faisais des passes contre le mur, je jonglais contre le mur. Et voilà, après, j'ai fait ça tout avant d'arriver ici en France. Et voilà, c'était plutôt ça, une enfance voilà, calme, qui aimait beaucoup jouer.
T'as 12 ans, tu prends un billet vers Paris. Quel est ton sentiment le jour du départ à l'aéroport? C'est peu commun à 12 ans de prendre l'avion tout seul, direction un pays, un continent qu'on ne connaît pas.
C'est vrai que c'est risqué aujourd'hui de partir... d'aller dans un endroit où tu connais pas, surtout assez jeune comme ça. Je me rappelle mon papa qui me mettait dans la voiture pour aller et partir avec mon oncle et tout. quand je partais, j'avais le sentiment de partir en aventure. C'est-à-dire que j'avais le sentiment, je sais pas où j'allais, je sais pas ce qui allait se passer, mais je me disais que je partais découvrir plein de trucs.
C'était pas effrayant?
À la fois effrayant et très effrayant parce que j'allais manquer ma maman, ma famille aussi. Mais voilà, je me disais que waouh, peut-être que je vais découvrir plusieurs choses que moi je voyais plus les choses en positif.
Ouais.
Mais j'étais vraiment inconscient, tu vois, vraiment inconscient de tout ce qu'il y avait, comment ça se passait vraiment. Déjà, j'étais en février, je crois que c'était le 9 février, je sais pas si je me rappelle bien, 2012. Et j'avais un short.
Ah ouais.
C'était en février, c'était en plein hiver. Hein. J'avais un short, un t-shirt, et je suis parti comme ça.
Et quand t'arrives là, tu te dis non, quoi, j'ai fait une erreur.
J'avais des espadrilles. j'avais des espadrilles. J'arrive, en fait, avant d'atterrir dans l'avion, tu vois que tout le monde commençait à se lever, à se changer, à mettre des trucs, à enlever des... Je suis comme ça. Pourquoi les gens, ils changent et tout comme ça, ils commencent à mettre des gros motos, des trucs. Je comprenais pas. Bon, genre, on arrive, quand je commence à avoir le froid, c'est tout gris, c'est tout. Genre, on arrive à 6h du matin, c'est tout gris, c'était tellement froid. J'ai dit, non, c'est incroyable. Là, j'ai compris.
Tu regrettes à ce moment-là ou pas? Ou c'est l'aventure qui fait que, bah voilà, tu te dis, allez, on y va, mais est-ce que tu regrettes?
À
ce moment-là,
bougé.
Quand t'atterris, que tu vois la froideur, le gris.
J'avais peur un peu. Je me dis, c'est où? Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, ça va se passer comment en fait? Après, je commence à avoir vraiment, vraiment froid. Alors, on m'a dit, c'est normal. Tout le monde nous regardait bizarre parce que tout le monde voit, il est jeune, il est en short.
Un ovni.
Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Tout le monde se tournait, me regardait, qu'est-ce qu'il fait? Après, voilà, ça faisait le froid. J'avais vraiment mal aux pieds, aux mains, mais. Voilà, c'est des souvenirs assez marrants. Des fois, je me rappelle de ça, souvent.
Comment ça se passe les premiers mois en France? T'es émerveillé parce que forcément, c'est autre chose ou c'est compliqué?
Je suis émerveillé parce que je suis ici. Mes potes là-bas, ils m'ont envoyé quelques messages, je me rappelle, sur Facebook. Ils me disent, t'es content? Ils me disent, ah ouais, il est en Europe et tout, ça se passe. Je disais, ouais, ça se passait bien, j'étais aussi content. J'avais ma famille qui me manquait, bien sûr, mais pendant mes premiers mois, je jouais pas au foot, mais c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, mais j'étais vraiment dans le, je savais pas ce que j'allais faire, en fait, parce que j'étais pas venu vraiment pour un but précis comme le football. Il y en a qui quittent l'Afrique et ils viennent dans un centre de formation directement via un club ou via un truc comme ça. Non, moi j'étais venu pour avoir de meilleures options. C'est-à-dire, si c'était les études, d'avoir une chance de faire les études, c'était de travailler, de faire un truc. Voilà, mais j'étais assez jeune, donc commencer les études, j'avais pas tout de suite commencé l'école, le collège ou tout ça. Mais j'étais avec mon oncle, voilà, c'était assez compliqué. Voilà, il avait ses problèmes aussi à lui, on va dire. Voilà, il avait ses problèmes à lui. Et ensuite, je me suis retrouvé à Lyon, où j'ai rencontré des gens bien, des amis aussi, de la famille aussi là-bas, des proches de ma famille qui étaient au Togo, qui m'ont aussi pris un peu avec eux. J'ai rencontré de bonnes personnes, René Arlabos, que j'aime citer souvent, et même Franck Arlabos, qui était mon coach au CAS Colula. J'ai gardé ce contact jusqu'à aujourd'hui parce que même quand je suis parti à Nîmes, ils ont continué à m'appeler souvent.
Ouais, ils t'ont jamais lâché.
Ils m'ont jamais lâché.
Faut rappeler, c'est vrai que à 12 ans, tu quittes Paris, tu prends un billet de train pour Lyon sans savoir si quelqu'un t'attendra, même j'ai envie de dire à la recherche de quelqu'un, parce que tu sais que tu as des tantes, mais tu sais pas, tu les as pas en contact, c'est encore une autre aventure.
Là, c'était une aventure, j'étais mineur. Je sais parce que j'ai pris le train, j'ai même pas pris un billet. Je suis rentré dans le train, j'ai vu Lyon, je suis rentré, j'ai fraudé.
Ah ouais.
J'ai envie de dire, j'ai pas pris de billet, je connaissais rien, je savais même pas comment ça se passait. Et je rentre, je pars, j'arrive à Lyon, voilà, je sors dans la rue. Voilà, c'est encore une longue histoire. Ces gens que je rencontre, ça se passe bien aujourd'hui. J'ai toujours gardé ce contact parce que, encore une fois, eux, c'est des Européens, c'est des Français, ils savent, quand ils me voient tout de suite là-bas, Il commence à se rapprocher de moi. Il, bon, il voit le talent sur le terrain.
Bien sûr,
il vient d'où? Allons parler avec lui. Et il se rend compte qu'en fait, je suis tout seul. Je lui raconte comment je suis arrivé, comment j'ai fait le parcours de Paris à Lyon. Ils disent, mais non, c'est incroyable.
Ouais, ils doivent être étonnés et même interloqués.
Ils ont eu les larmes aux yeux.
Ouais.
Ils ont eu les larmes aux yeux. Il me dit, pour un enfant de... C'est... T'as pas le droit d'être... Aller dire malheureux. Mais moi, j'étais content parce que je joue au foot, mais... T'as pas le, tu dois avoir une bonne éducation, une bonne enfance. Et jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont pas lâché, quand je te dis. Et moi aussi, je les ai pas lâchés. Aujourd'hui, souvent, ils viennent voir mes matchs au cercle. Ils voient mon évolution. Et ils viennent chez moi ici. Quand ils viennent voir les matchs, je les héberge à la maison avec toute leur famille.
Ils t'ont pas lâché dans les mauvais moments. Tu les lâches pas dans les bons moments.
Non, je les lâche pas, bien sûr. Je suis toujours reconnaissant et parce que je sais que c'est des vrais, c'est pas ils ont pas été avec moi parce que j'étais déjà Kevin Dinké,
footballeur professionnel.
C'est-à-dire que eux ils m'ont vu quand je suis arrivé, ils m'ont vu sans rien avant que j'intègre le centre de formation, mais ils croyaient en moi aussi.
Ouais.
De par ma mentalité, l'humilité que j'avais, tout ça et voilà.
Ils t'ont offert de l'humanité aussi à un moment où tu en manquais peut-être parce que voilà, t'étais tout seul.
Vachement, des parents. On va dire, je manquais de personnes vraies qui étaient autour de moi, qui voulaient vraiment du bien de moi et qui étaient prêts à m'aider, à me guider, à m'éduquer encore un peu. Parce que voilà, j'étais quand même très très jeune et je ne connaissais pas grand-chose d'ici.
Parce que c'est vrai qu'avant de les connaître, j'imagine que les premiers jours à Lyon, du coup, c'est quoi? C'est la rue? C'est, tu rejoins un foyer pour enfants? C'est compliqué?
J'en ai jamais parlé vraiment, mais là, je vais mourir. Ce qui se passe, c'est que j'arrive à Lyon, j'arrive à la gare. C'était à la Part-Dieu, c'était à la gare de la Part-Dieu. J'arrive avec deux, trois affaires, deux, trois valises. J'ai les flics qui m'arrêtent, qui viennent me voir. Tu fais quoi pour ton âge avec des affaires comme ça, dehors, à cette heure-là? Il est tard. Et je leur dis que voilà, ça, c'est comment c'est passé que je suis arrivé là. Ils me prennent, ils m'amènent dans un centre. Je crois c'était un centre de... Je ne sais pas si c'est réfugié, je sais pas réfugié, mais de un centre en
attente. Pour mineurs aussi.
Pour mineurs, ouais. Voilà, parce que je suis un mineur. Et pour des jeunes comme ça, pendant un moment, je passe devant le juge, je fais plein de trucs, et ensuite ils décident de me mettre dans un foyer. Voilà. Et dans un foyer, on me dit tu connais quelqu'un à Lyon, et j'avais dit que je connaissais de la famille qui connaissait ma famille à Lomé, et là ils ont fait des recherches, ils les ont retrouvés, et j'ai commencé à les voir de temps en temps. C'est-à-dire que j'étais au foyer toutes les semaines et pendant les week-ends, j'avais le droit d'aller les voir une fois chez eux, voilà, de temps en temps, et ils pouvaient m'appeler. Et j'avais un peu cette stabilité de savoir que j'avais eux.
Des racines présentes pas loin de toi malgré un environnement compliqué à l'époque.
Exactement. Et ce n'était pas vraiment comme si j'étais avec eux, mais je savais que j'avais des gens qui étaient à Lyon que je pouvais voir une fois de temps en temps. Et c'était dans le foyer, on avait droit à des activités. Voilà, des activités à part l'école qu'on pouvait pratiquer, de choisir. Et moi, j'ai choisi le foot. Et du coup, ils m'inscrivent dans un club qui est le CAS Kolula. Voilà, c'est comme ça que j'arrive là-bas. Et on m'inscrit, je crois qu'on avait deux entraînements par semaine et le match week-end. Des fois, quand je n'étais pas sage, on m'interdisait d'aller à l'entraînement et j'étais vraiment mal. Mais...
Ça, c'est la pire des sanctions, non? Parce que c'était au final... T'as bouffé d'oxygène.
C'était le seul endroit où je pouvais. Parce que pour dire, quand tu te retrouves en foyer, c'est pas forcément ceux avec qui t'es, c'est pas forcément des gens qui sont nickel. C'est ouais. Parce qu'il y a des problèmes dans leur vie aussi. Des fois, c'est parce que les parents, ils sont alcooliques, ils boivent de l'alcool.
Ouais, ils ont abandonné leur tâche de parents. Et c'est pas comme au centre de formation, vous pouvez être des potes. Là, c'est chacun pour soi, c'est un peu la jungle.
Chacun pour soi. Ils sont aussi malheureux d'être là. Ils ont pas demandé d'être là. Donc, des fois, tu entends des bruits tard le soir. Des fois, il y en a qui fuguent. Ils se font ramener par la police. Des fois, très, très jeune. Hein, des fois, tu vois des archi-jeunes qui fument. Ils fument des trucs. Je me dis, mais t'es où? Moi, j'étais loin de ça, en fait. Moi, j'étais vraiment un enfant très, très sage. Limite, qui n'avait rien à faire là-bas.
Ouais, mais... dans un monde de fou, parce que tu rêves au rêve européen et tu te retrouves au final dans la cour des miracles où tu côtoies de tout, c'est ça. Donc là, tu regrettes ton choix à ce moment-là de venir en Europe?
Bah là, c'est dur. Là, c'est difficile. Et Et ma seule bouffée d'oxygène, comme tu viens de le dire, c'était le football et les moments où je pouvais m'entraîner. Après, dans le foyer, il y avait une cour où on pouvait jouer au foot. Je passais tout mes temps là-bas aussi. Quand je pouvais, je jouais. Et une fois que j'ai commencé à m'entraîner au Cascol, voilà. Après, j'ai vraiment fait une grosse différence là-bas. C'est-à-dire que on a commencé à me connaître, tu vois, dans tout Lyon, dans toute la région. Quand il y avait des matchs, j'étais là et on me dit c'est qui lui. Pour moi, c'était. J'étais vraiment fermé. Je savais pas encore l'impact que j'avais dans la région comme ça.
Tu prenais pas conscience encore de ton talent.
Non.
Et tout va très vite pour toi parce qu'au final, tu arrives en France à 12 ans, il y a toutes ces péripéties qui te forgent un caractère. Et 6 ans plus tard, tu remplaces Emmanuel Adebayor pour ta première sélection nationale contre le Bénin. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu es bord touche et que tu vois une légende qui vient pour te céder la place?
Exactement, c'est un sentiment de fou. Et le parcours pour arriver en sélection, en équipe nationale aussi, je crois que j'ai une vie de fou en fait. Et c'est aussi un long parcours. Je rentre pour mon premier match avec l'équipe nationale parce que j'ai fait un bon tournoi de Toulon qui s'est passé à Toulon.
Qui est un tournoi réputé pour les espoirs, les équipes nationales espoirs.
Voilà, les espoirs où j'ai été appelé quand j'étais avec la réserve de Nîmes. Ils m'ont appelé, je suis allé. J'étais inconnu de tous, mais ils savaient que j'étais un Togolais. Donc, j'ai fait un bon tournoi où j'ai joué le deuxième match. Premier match, j'étais sur le bon parce qu'ils ne me connaissaient pas. Deuxième match, on me met titulaire et je fais gagner le Togo 2-1. Je marque 2 buts. Et à partir de là, il y avait le sélectionneur du Togo,
Claude Leroy.
De la A, Claude Leroy, qui était dans les tribunes. Après le match, il descend, il me voit, il me dit « Mon petit, c'est bien, continue et tout ça ». Et c'était la seule victoire que le Togo a eue là. Et c'était vraiment deux beaux buts en plus. Et tout de suite après le tournoi, faut savoir que je suis aussi français. La France était dans la poule. Ils ont voulu me démarcher. Que le roi, il a été au courant. Il est venu, il s'est déplacé à Nîmes pour me voir, pour me dire, faut que tu viennes. Là, là. Et moi, après 6 ans, je n'avais pas revu ma famille. J'avais revu
aucun
personne.
Contact.
Aucun, si au téléphone.
Ouais.
Mais j'avais pas revu face à face quoi. Enfin, et quand il me dit que je vais te prendre avec la A, j'ai même pas hésité. Et je pense que c'était plus le fait de revoir ma famille qui m'a. Et on avait le match au Togo, donc tout de suite j'ai dit oui. Et je suis rentré voir ma famille pour la première fois grâce au Togo parce que le Togo m'appelait pour l'équipe nationale A. Et c'est comme ça que j'ai revu ma famille. Et c'était tout ce waouh, mon père, ma mère, toute ma famille, ils étaient tous contents, fiers de me voir revenir après tant d'années pour jouer pour le pays. Et voilà.
Comment elles se passent, les retrouvailles? Il y a des larmes, j'imagine, parce qu'il y a eu tellement d'épreuves, d'aventures que c'est un soulagement de se retrouver, mais l'émotion, elle est présente.
L'émotion, elle est présente. Je voyais mon père qui, c'était plus du respect. Il avait du respect pour moi, mon père. Ma mère, c'était une folie. Voilà, mes sœurs, mes amis, c'était une folie pareil. Voilà, et là, tu rencontres aussi Adebayor pour la première fois parce que tu dis, je vais jouer avec Adebayor.
C'est un truc de dingue.
C'est incroyable. Adebayor, c'est un autre niveau, tu vois. Et là, tout de suite, dès les premiers entraînements aussi, sachant que j'étais avec l'équipe réserve de Nîmes, c'est-à-dire que j'étais inconnu de tous, dès les premiers entraînements, il me voit, il sent un truc aussi, lui. Chez moi, je ne sais pas si c'est le talent ou l'envie de faire quelque chose. Et là, il m'invite, après un entraînement, il me dit avant le dîner, viens, on va se poser au bar parce qu'on est dans un hôtel, on va parler un peu et j'ai des choses à te dire et avoir un peu ta mentalité. Comme ça qu'il a commencé à me parler, on s'est rencontrés, il m'a donné des conseils. Voilà, continue comme ça, je lui ai posé aussi des questions. À partir de ce moment, il m'a pris sur son aile. Un peu, tu vois. Et là, dès que tu sais qu'il y a quelqu'un comme ça, à des bailleurs qui te...
Un modèle.
J'étais à l'aise dans la sélection. Et ça a commencé comme ça. Et petit à petit, j'ai commencé à ressentir, je ne vais pas dire une pression, mais une exigence juste au go, qui disait que je devais être le remplaçant d'Adebayor. Sans être pro encore. Hein. C'est-à-dire que...
Tu es encore en réserve, tu joues en CFA, CFA 2, donc cinquième échelon français. Et puis tout d'un coup, tu es propulsé comme le successeur de nouvel Adebayor.
C'était fou. Sans avoir fait encore des matchs en pro, on va dire. Vraiment confirmé. Ben, je me disais qu'il y avait quelque chose de grand qui m'attendait, parce qu'il y avait l'exigence du Togo. Voilà, et je me disais, bah, c'était plutôt positif, mais il fallait le faire.
Tu ressens pas la pression à ce moment-là? Aucune? Tu sais, le fait que le poids du monde devient grand, parce que tout le pays, qui est un pays de foot, on l'a vu en 2006 après la qualification à la Coupe du Monde,
Bien
les
sûr.
rues de Lomé qui sont pleines. Et là, ben, toi qui a 18 ans à l'époque, on te donne une mission qui est prenante.
Bah, une pression, franchement, je t'avoue qu'ils ne m'ont pas protégé, quoi. C'est-à-dire qu'ils te disent, tu dois, tu dois, tu dois. En fait, ils te disent, tu dois, mais pourquoi tu dois? Dans ma tête, je me dis, mais j'arrive, je suis en train de découvrir, montrez-moi, j'apprends. J'ai encore pas fait grand match avec le Togo, j'ai encore rien prouvé sur la scène. Peut-être c'est dû au talent, peut-être ils voient juste le talent, ils disent, tu dois, tu dois. Je pense qu'il faut l'accompagnement, il faut plein de trucs, il faut. Mais voilà, après, je sais pas, j'ai l'impression que c'était mon destin qui était comme ça. C'était mon destin de dire que lui, il doit être là. Il doit, mais bon, après, entre là et doit et faire, c'est vraiment.
Il y a une étape
Il y a une
à
étape,
franchir.
il y a vraiment une étape.
Adebayor continue à te donner des conseils, à suivre ton destin qui est fabuleux au final.
Au final, c'est plutôt pas mal le chemin que je fais. J'ai un bon chemin, je pense qu'il y a encore beaucoup à venir. Il me suit, ouais, il me suit sur les chaînes, togolaises aussi. Il fait plein d'interviews, je vois plein d'interviews où il parle de moi. Voilà, en positif, bien sûr. Il me donne aussi des conseils. De temps en temps, on s'appelle au téléphone, il me donne des conseils. Et voilà, même sur cette saison qui arrivait, il m'avait déjà prévenu qu'il me fallait une saison où je devais vraiment
Explosé.
exploser. Voilà. Il me dit, dans ta progression, il te faut une saison de référence, il m'avait dit.
Ouais.
Et voilà, il me l'a dit avant cette saison. Hein, et là, je me dis, peut-être que c'est là, c'est cette saison, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est je l'écoute. Je l'écoute, il a fait. C'est vraiment quelqu'un d'expérimenté. Il a ses qualités, j'ai mes qualités aussi. Je joue avec mes qualités, mais j'écoute ses conseils aussi parce que de par son expérience aussi.
Ouais, tu dois pas devenir le nouvel Adebayor, mais tu dois être Kevin Denke.
Voilà, je suis Kevin Denke. J'ai beaucoup à faire à ma façon parce que je pense que j'ai ma façon aussi que plein de personnes, d'autres personnes n'ont pas. J'ai mon vécu que plein de personnes ne sont pas passées par là. Donc j'ai je pense, une force et un truc spécial que je dois faire avec. Et les gens, ils doivent le voir aussi.
Est-ce que, petite question qui n'a rien à voir, mais est-ce que tu as ton permis maintenant?
Bien sûr que j'ai mon permis. Maintenant, ça va, je l'ai.
Ça va la conduite? Comment tu te débrouillais sans permis? C'était toujours avec un chauffeur en
C'était
fait.
compliqué avec sans le permis. C'était le chauffeur, c'était le taxi. C'était beaucoup de dépenses pour des petits trucs où il fallait attendre un pote. C'était. Ouais. Mais maintenant, ça va.
Comme
Donc,
quoi,
je
ouais,
suis
c'est
content.
à chaque galère, tu arrives à surmonter les obstacles.
Petit à petit, ouais.
Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ta carrière?
De continuer à progresser, à me développer et à rester fit et en bonne santé.
T'as un rêve, toi, d'un club en particulier où tout te va? Après ce que tu as vécu, au final, c'est que du bonus et la vie est belle?
Bien sûr, la vie est belle. J'ai pas forcément un club de rêve où, allez, je me dis, je veux jouer là, mais je veux jouer au plus haut niveau dans le football. C'est-à-dire que mon potentiel, je veux le maximiser, je veux l'amener au maximum et dans les plus grands stades, vivre les moments foot dans le football. Vraiment des trucs, tout ce que le football a vraiment à donner, voilà, je suis prêt à prendre et aussi à donner au football.
Petit pronostic, tu seras à combien de buts à la fin de la saison avec le cercle?
Je sais pas si c'est bien de dire, mais je sais que je vais être au maximum. Je vais donner mon maximum. C'est-à-dire, je vais tout faire pour atteindre le max.
Bon bah nous on prend les paris et on imagine que tu mettras plus de 20 buts. En tout cas, un grand merci Kevin, c'était un plaisir de découvrir cette belle histoire.
Merci beaucoup. Plaisir partagé.